Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous sommes le 18 septembre 1698, dans la 55e année, très exactement, du règne de Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle. Aux portes de Paris, une voiture tirée par des chevaux vient de passer inaperçue et à son bord, un personnage qui fera couler beaucoup d'encre et tourner une bonne vingtaine de manivelles de cinéastes. Et pourtant, cet homme est un inconnu puisque son visage est enfermé sous un masque de fer. L'homme est conduit à la Bastille où il vivra ses derniers jours et c'est précisément le lieutenant de Roy qui officie dans la célèbre prison qui le premier va évoquer cet inconnu dans un texte. Véritable mythe de notre histoire, l'homme au masque de fer n'en reste pas moins pour le plus grand nombre une énigme. À son sujet, plus d'une cinquantaine de thèses ou hypothèses ont été défendues, la plus saugrenue et la plus connue étant bien évidemment celle d'un roi, d'un soi-disant frère de Louis XIV. Alors, pour lever le voile sur ce personnage, ou plutôt lever l'écrou de ce masque et connaître le mystère, pour connaître ce visage au fond, je reçois Jean-Christian Petit-Fils. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes docteur d'État en sciences politiques, historien. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment une excellente biographie consacrée à Louis XIV, parue aux éditions Perrin. Et ce sont les mêmes éditions Perrin qui viennent de rééditer votre ouvrage « Le masque de fer, entre histoire et légende » dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, est-ce Louis XIV, justement, et l'étude de son règne qui vous a amené à explorer le mystère du masque de fer ?
Ah oui, certainement. Ce siècle a toujours été ma grande passion sur le plan historique. Et bien entendu, j'ai rencontré très rapidement cette énigme qui, donc, à la fois est une énigme historique et puis un formidable mythe. Et ça intéresse à double titre l'historien, à la fois donc comme une enquête policière que nous devons résoudre. Il y a un puzzle, il y a un certain nombre de pièces qu'il faut essayer de faire coïncider. Et puis le mythe en lui-même mérite aussi une étude, une analyse pour montrer ses racines profondes, pour montrer pourquoi il s'est développé au XVIIIe siècle, cette arme de combat contre l'absolutisme, contre les lettres de cachet. C'est quand même, il apparaît monstrueux d'enfermer un individu pour des raisons d'État, avec un instrument de torture sur le visage. Là, il y a toute une littérature qui a commencé à développer Voltaire, et puis d'autres après lui. Ça permet de comprendre beaucoup de choses sur le XVIIIe siècle, sans compter cette rumeur maléfique qui va empoisonner un peu les allées du pouvoir concernant l'identité du prisonnier masqué qui serait un personnage de sang royal.
Alors je crois que dans votre jeunesse, vous avez déjà travaillé sur le masque de fer. Vous avez écrit un article.
Oui, j'ai écrit un article il y a très longtemps. J'avais une quinzaine d'années. Et puis un premier ouvrage sur le masque de fer qui est paru il y a déjà plus de 30 ans.
Et vous avez évolué dans votre position ?
Disons que je l'ai précisé. Non, je n'ai pas totalement évolué. Disons que j'ai affiné certains éléments et je suis arrivé à une explication un peu différente de la première. Et enfin, nous verrons ça tout à l'heure.
Alors, quand on s'empare de votre livre, on pense, ou plutôt on s'attend à l'extraordinaire, au mythe, à la légende. Et pourtant, il n'en est rien. L'historien travaille sur les sources, les documents écrits, et vous ramenez d'emblée le lecteur à une réalité beaucoup plus prosaïque.
Oui, parce que cette histoire, elle a, malgré sa légende et malgré ses développements extraordinaires, on parle d'un prisonnier qui était servi avec des domestiques, qui mettait genoux à terre, on lui donnait la meilleure chair, la meilleure nourriture, on allait lui chercher des Madame Lebray, qui était la femme de l'intendant, commandait pour lui, dit-on, de magnifiques dentelles. Il y a toute une légende qui entoure ce prisonnier, et la question est de savoir si il y a un fond authentique. Et là, l'historien donc doit arriver avec un esprit critique et essayer de remonter le fil, d'examiner les documents. Alors, cette histoire donc a un fond authentique. C'est une gazette à la main de septembre 1687, donc 11 ans avant l'arrivée fracassante du personnage à la Bastille. Et cette gazette à la main, qui circule donc sous le manteau, qui n'est pas un journal officiel, qui était produit par les milieux jansénistes, elle nous dit ceci. « Monsieur de Saint-Mard a transporté par ordre du roi un prisonnier d'État de Pignerol aux îles Sainte-Marguerite. Personne ne sait qui il est. Il y a défense de dire son nom et ordre de le tuer s'il le prononce. Il était enfermé dans une chaise à porteurs, ayant un masque d'acier sur le visage, et tout ce qu'on a pu savoir de Saint-Mard est que ce prisonnier était depuis de longues années à Pignerol et que tous les gens que l'on croit morts ne le sont pas. » Donc on voit déjà l'atmosphère de mystère qui, dès cette époque-là, entoure ce personnage.
Alors vous citez cette gazette, mais bien évidemment, il y a bien d'autres documents. Quelles sont les sources que vous avez pu utiliser lors de votre travail ?
Alors, les sources, donc, outre cette gazette, il y a toute la correspondance de Monsieur de Saint-Mard, qui n'a rien à voir avec le Saint-Mard, bien entendu, de la conspiration du temps de Richelieu et de Louis XIII. Monsieur de Saint-Mard, qui est un ancien mousquetaire, qui a été affecté à partir de 1665 à la garde de Nicolas Fouquet à Pignerol. Et puis qui a reçu un certain nombre d'autres prisonniers dans le donjon de Pignerol. Pignerol, c'est une petite place forte, française à cette époque-là, pas très loin de Turin, entre Turin et Briançon, si vous voulez. Donc nous avons toute la correspondance de M. de Saint-Mard et de ses ministres de tutelle, que sont Louvois, puis son fils Barbezieux, secrétaire d'État à la guerre, qui ont en charge les prisons d'État, globalement, du royaume.
Mais alors, on ne cite jamais le prisonnier, on ne cite jamais son nom dans cette correspondance.
Alors, dans cette correspondance, on parle par périphrase, on parle du prisonnier que vous gardez depuis 20 ans, de l'homme de la tour, de ce qu'il a fait, de ce à quoi il a été employé. On craint toujours que la sacoche du courrier s'égare sur les routes et on fait donc attention aux multiples. En dehors de cette correspondance, nous avons aussi un certain nombre de comptes. Les comptes des prisons qu'on peut trouver aux archives nationales, aux archives des affaires étrangères, à la bibliothèque nationale, et puis au service historique de l'armée, là où se trouve l'essentiel de la correspondance de M. de Saint-Mard. Une partie se trouvant aux archives nationales. Donc là, nous avons beaucoup de pièces, beaucoup de documents, quelques centaines, qui nous permettent de reconstituer toute l'histoire des prisonniers de M. de Saint-Mard. Et c'est ça l'essentiel. Parce que beaucoup d'écrivains nous ont parlé, ont lancé à propos de ce personnage un certain nombre d'hypothèses qui n'ont aucun fondement. Certains ont dit que c'était le comte de Vermandois, fils naturel de Louis XIV et de Mademoiselle de la Vallière, le duc de Monmouth, le duc de Beaufort, qui n'aurait pas été tué à Candie, au siège de Candie en 1669, ou le surintendant Fouquet, qui ne serait pas mort à Pignerol en 1680, mais qui aurait poursuivi sa carrière, si je puis dire, de prisonnier sous Monsieur de Saint-Mard. On a parlé du chevalier de Rohan, etc. La grande erreur de tous ces écrivains et chercheurs, c'est de vouloir imposer un candidat et non pas de partir tout simplement des documents que nous avons et des prisonniers qui se sont trouvés là. On a des noms, on a des chiffres de pension. Nous savons, nous connaissons à peu près le registre d'écrou de Monsieur de Saint-Mard. Monsieur de Saint-Mard a une carrière très longue en tant que geôlier. Il était donc d'abord gouverneur du donjon de Pignerol de 1665 à 1681. Ensuite, il a été commandant du fort d'exil qui est pas très loin, qui est entre Pignerol et Briançon dans les Alpes, de 1681 à 1686. Puis, en 1687, nous le voyons là arriver à l'île Sainte-Marguerite, il a été gouverneur des îles de l'Hérens, donc ces deux îles qui sont au large de Cannes, et où nous pouvons encore voir, dans la première d'entre elles, au large de la Croisette, le fameux cachot du masque de fer qui est tout à fait authentique, celui-là, et on est quasiment sûr à 99% de sa localisation et de son authenticité. Et puis, en dernier lieu, M. de Saint-Marc donc, a quitté l'île Sainte-Marguerite avec son prisonnier d'État, son prisonnier masqué. Il l'a quitté. Alors, il portait un masque de velours noir à ce moment-là. Il est arrivé à la Bastille avec un masque de velours noir, alors qu'il avait un masque d'acier, comme nous dit la Gazette, quand il est arrivé à Sainte-Marguerite.
Alors, précisons que ce masque, il ne le portait pas 24 heures sur 24.
Alors, on peut supposer que non. Évidemment, parce que en présence de ses gardiens, il y avait M. de Saint-Marc et puis un ou deux adjoints qui lui portaient sa nourriture, eh bien, il était facilement... il était à visage découvert. Donc, ce prisonnier et M. de Saint-Marc achèvent leur carrière à la Bastille. L'un, le prisonnier, meurt le 19 novembre 1703 à la Bastille. Et M. de Saint-Marc meurt quelques années plus tard, en 1708.
Donc le sort de notre homme est bien lié à la vie et au parcours de ce M. de Saint-Marc.
Absolument. Et nous avons... pour pouvoir reconstituer le puzzle, nous avons une phrase qui est très intéressante d'Étienne Dujinca, donc lieutenant de roi à la Bastille, qui est donc le numéro 2 de la forteresse, qui ne connaît pas l'identité du prisonnier. Dujinca tient un registre des croûts privés, on pourrait dire, une sorte de cahier personnel dans lequel il note les arrivées des prisonniers. L'endroit où on les affecte, à quel endroit, parce que la Bastille a 8 tours, donc il y a des cachots, il donne donc à la première de la Liberté, la deuxième de la Bertaudière, etc. Ce sont des cachots, un cachot par étage, et le prisonnier a été mis au départ, notre prisonnier masqué d'un masque de velours noir à la Bastille, à la troisième de la Bertaudière, et il a probablement changé à plusieurs reprises de prison. Ce monsieur de Dujinca, dans son registre, premier registre, donc les entrées, le deuxième registre, c'est le registre des décès ou des libérations. Et le registre des décès, libérations, nous donne un acte de décès de l'homme au masque, donc en novembre 1703. Dujinca écrit le 20 novembre pour relater le décès le 19 du prisonnier et indique qu'on l'appelait Monsieur de Marchiel en note. C'est donc un point très intéressant. Mais surtout, le premier document relatant l'arrivée du prisonnier masqué à la Bastille en 1698 nous dit ceci. C'était un ancien prisonnier que M. de Saint-Marc avait à Pignerolles, lequel il fait tenir toujours masqué. Alors là, on a dit mais qu'en fait, ce n'était pas toujours, bien sûr, mais il ne le sait pas, Dujinca, dont le nom ne se dit pas. Et cette petite phrase est très importante parce qu'on n'a aucun élément qui nous permette de douter de la véracité des dires de Dujinca. Dujinca est un homme très, très scrupuleux, très honnête, et vraiment ce registre, c'est le document de base pour notre énigme. Il nous dit donc qu'il était à Pignerolles. Or, nous savons que M. de Saint-Marc a quitté Pignerolles en 1681. Toute la question, c'est de savoir, à partir des comptes des prisons, à partir de la correspondance, quels étaient les prisonniers qu'il avait en charge à ce moment-là.
Alors nous allons voir précisément s'il y a un certain monsieur Marchiel, comme vous venez de le dire, qui est mort à la Bastille, s'il était à Pignerolles. Après une première pause, Jean-Christian Petit-Fils, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste du XVIIe siècle, que vous avez écrit Le Masque de Fer, un livre qui vient d'être réédité dans la collection Tempus, la collection de poche des éditions Perrin. À tout de suite.
Canal Académie.
«
On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Christian Petit-Fils, historien, auteur du livre Le Masque de Fer, paru dans la collection Tempus. Alors, monsieur Petit-Fils, nous évoquions ce personnage qui est mort à la Bastille, qui s'appelle Marchiel ou Marchioli ou Marchioli. Et le but, comme vous le dites, c'est de revenir à l'origine et de revenir notamment au comte des prisons en 1681, l'année où Saint-Marc, qui est le geôlier de notre homme, du Masque de Fer, quitte Pignerol pour aller à exil. Alors, à Pignerol, il a 6 prisonniers, 6 petits nègres, comme vous les qualifiez, puisque vous le disiez au début de cette émission, il s'agit d'une véritable enquête policière. Qui sont ces 6 petits nègres ?
Alors, M. de Saint-Marc a d'abord perdu ses 2 prisonniers de marque, le premier étant Nicolas Fouquet, qu'il a gardé depuis 1665, et qui est mort le 23 mars 1680, donc quelques mois avant. Et il a perdu un second prisonnier de marque, qui était le comte de Lauzun, gouverneur de Berry, lieutenant général des armées du roi, le courtisan bien connu, l'amoureux de la grande mademoiselle, qui a été, à la suite d'une altercation avec Madame de Montespan, enfermé à Pignerol pendant 10 ans, donc de 1671 à 1681. Il est donc libéré en avril 1681. Donc ces deux personnages sortent de notre champ de réflexion. Nous n'avons aucun doute sur la mort de Fouquet. Il y a des historiens qui ont dit que l'homme au masque était peut-être Fouquet parce que c'était le seul prisonnier de marque important que M. de Saint-Marc avait avec Lauzun. Lauzun étant libéré, et puis Lauzun, on connaît parfaitement sa carrière ultérieure, donc il n'y a aucune possibilité pour lui de l'identifier à l'homme au masque. En revanche, Fouquet mourant en prison, on aurait pu se poser la question. Donc aucun doute là-dessus. Restent 6 prisonniers dont les archives nous révèlent les noms. Le premier, c'est un valet qui s'appelle Eustache d'Angers, qui a été un valet arrêté en 1669 et qui a été mis au service de Fouquet quelques années plus tard. Donc c'est un valet de Fouquet. Mais un valet un peu spécial, c'est un valet prisonnier. Le second est un ancien moine jacobin, dominicain, qui s'appelle Lapierre. C'est peut-être un surnom, c'est probablement parce qu'on l'accusait d'avoir cherché la pierre philosophale pour fabriquer de l'or. Le troisième est un espion qui s'appelle Dubreuil, le comte Dubreuil, qui se prétend comte Dubreuil, qui a été arrêté par des officiers de l'armée du roi parce qu'il renseignait l'ennemi, et il a été donc enfermé à Pignerol. Le quatrième est un agent double, le comte Mattioli, un Italien, arrêté en 1679 et qui se trouve toujours à Pignerol en 1681. Le cinquième est un valet c'est le valet de Mattioli, qui s'appelle Rousseau, sur lequel on n'a pas beaucoup de renseignements. Et le sixième, c'est un autre valet de Fouquet, qui s'appelle Larivière, qui lui a commencé sa carrière comme simple valet, qui n'était pas un prisonnier, et puis qui va devenir prisonnier. On va voir pourquoi. Et nous avons donc 6 personnages. Et nécessairement, mathématiquement, l'homme au masque est l'un d'eux. Alors on peut procéder par élimination, à partir bien entendu des éléments que nous fournit la correspondance. Dubreuil, le comte Dubreuil, est libéré en 1684. Il disparaît des comptes, de la comptabilité des prisons, de la prison. Larivière meurt à exil en 1686. Le moine jacobin meurt à Pignerol. Lui, il reste à Pignerol. Il faut dire que en 1681, M. de Saint-Marc va à exil avec 2 prisonniers et en laisse 4 autres à Pignerol. Le valet, le moine jacobin meurt à Pignerol en 1694. Nous avons, par déduction, pu identifier son décès, sa date de décès. Le valet de Mattioli, Rousseau, reste à Pignerol et rejoindra Monsieur de Saint-Marc à l'île Sainte-Marguerite, où il mourra en 1699, donc après le départ de Monsieur de Saint-Marc. Par conséquent, tous ces personnages, Dubreuil, Larivière, le moine jacobin, le valet de Mathioli, tous ces personnages sont à éliminer puisque nous connaissons leur destin et ce destin n'a rien à voir avec celui du prisonnier mort en 1703 à la Bastille sous le masque de velours noir.
Alors reste Eustache d'Angers et Mathioli.
Deux candidats possibles.
Et alors tout à l'heure vous citiez le nom du personnage qui est mort à la Bastille, c'est Machiel ou Mathioli. Monsieur,
alors voilà.
Alors et d'ailleurs l'historiographie s'est souvent employée à développer la thèse que le masque de fer est ce fameux Mathioli. Alors vous allez à l'encontre de cette thèse.
Voilà. Sur le registre de Dujinca, il est écrit « J'ai appris depuis qu'on l'avait enterré sous le nom de Monsieur de Marchiel ». Nous regardons le registre de Saint-Paul. Malheureusement, il a brûlé en 71 au moment des incendies de la Commune. Enfin, on a eu des photographies de cet acte de décès du prisonnier. Et le nom inscrit, c'est Marchioli. Pas de Marchiel, c'est Marchioli. Donc, il est évident que Marchioli, Mathioli, il y a plus qu'une similitude. C'est vraiment une identité de nom. D'autant d'ailleurs que dans la correspondance, on voit parfois écrit le nom de Mathioli, qui s'écrit habituellement avec deux T, écrit parfois Martioli. Donc, il ne fait aucun doute que ce nom de Mathioli, que le nom de Mathioli a été écrit, légèrement déformé, par le curé de Saint-Paul, puisque c'est lui qui a établi l'acte de décès, comme il établissait l'acte de décès de tous les prisonniers qui mouraient à la Bastille. C'est la paroisse Saint-Paul, dans le Marais, c'était la paroisse des prisonniers, paroisse de la Bastille. Est-ce pour autant l'homme au masque? Alors, qui est ce Mathioli? Mathioli, c'est un juriste, un diplomate, mais aussi un aventurier qui a été secrétaire d'État de Charles III de Mantoue, qui a été, à la suite d'un changement de pouvoir et de l'avènement de son fils Charles IV, éliminé du pouvoir, qui a été renversé et qui voudrait bien retrouver le pouvoir. Et qui, pour cela, va s'immiscer dans une négociation avec la bénédiction, plus ou moins, du jeune Charles IV de Mantoue, qui est un personnage joueur, débauché, aimant la vie vénitienne, qui ne s'intéresse pas du tout à la politique. Mathioli a l'idée de négocier avec le roi de France et son ministre des Affaires étrangères, Pomponne, la cession de la citadelle de Casale en Italie. La France donc s'installerait d'un côté, ayant déjà Pignerol, s'installerait à Casale dans le Montferrat, donc dominant la Lombardie.
C'était une position stratégique. C'est
une position stratégique très importante. Un projet de traité est signé à Versailles. Mathioli vient à Versailles. Il est reçu par Pomponne et reçu par le roi. Et moyennant 300 000 livres, l'affaire est bouclée. Bouclé, en réalité, à peine Mathioli a-t-il quitté Versailles qu'il va se précipiter à Turin, qu'il va écrire à la femme de l'empereur, qu'il va écrire aux doges de Venise pour leur annoncer la cession de Casale. Tout cela pour essayer d'empocher probablement quelques écus, quelques ducats supplémentaires.
Donc il trahit sa mission originelle.
Voilà, il a trahi. Fureur du roi, bien sûr, qui donne son accord pour un enlèvement de Mathioli. On l'attire près de Pignerol et on l'enlève. Et l'instruction de M. de Pomponne est « Il faudra que personne ne sache ce que cet homme sera devenu ». Donc, c'est en effet un candidat tout à fait valable.
Et cette thèse vraiment a été...
été soutenue par des grands historiens comme Fan Brentano, Marius Topin, et puis aujourd'hui encore, on la voit dans la plupart des dictionnaires.
Vous ouvrez le dictionnaire Moore, le masque de fer, c'est Mathioli.
C'est Mathioli. L'ennui, c'est que ce Mathioli, il est resté à Pignerol en 1681, et que quand nous voyons arriver le mystérieux prisonnier de 1687 dans sa chaise à porteur avec son masque d'acier, nous le voyons arriver à l'île Sainte-Marguerite, nous savons pertinemment par la correspondance que Mathioli se trouve toujours à Pignerol. Et il ne rejoindra l'île Sainte-Marguerite qu'en 1694, quand les troupes du duc de Savoie commenceront à investir la place, bombardant d'ailleurs le donjon. On décide d'évacuer les derniers prisonniers et de les rapatrier sur l'île Sainte-Marguerite. De sorte qu'ils auront fait l'économie du séjour à exil, mais ils vont retrouver leur geôlier, notamment Mattioli et son valet. Et nous savons aussi, malheureusement pour cette thèse, que meurt un prisonnier d'État quelques jours après son transfert, en 1694. Le nom n'est pas donné, mais nous savons qu'il avait un valet. Et le seul prisonnier à avoir un valet, c'est Mattioli, puisque le valet était mêlé à la négociation de la cession de Casale et a été enfermé en même temps que le personnage principal, Mattioli.
Alors c'est un aspect intéressant d'ailleurs de votre livre, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'il n'y a pas des centaines de prisonniers dans les prisons de France à cette époque. La monarchie absolue n'est pas si absolutiste que ça.
Non, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns et on prend beaucoup de précautions pour entourer de mystères leur détention. La monarchie vit sur le secret. C'est le système du secret absolu, c'est l'organisation du secret. Et même les choses les plus anodines sont souvent couvertes par le secret. On l'a vu dans cette correspondance où on parle par périphrase. C'est pas le seul exemple connu en la matière.
Alors reste donc Eustache d'Angers. Alors quel est précisément ce secret? Vous le dites. Que cache ce valet, puisqu'il a été valet de Fouquet, comme vous l'avez dit, c'est ce que nous verrons, Jean-Christian Petit-Fils, après une deuxième pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts, quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
Christophe Dickès.
Je reçois Jean-Christian Petit-Fils, historien, auteur du livre Le Masque de Fer, paru réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Donc, Jean-Christian Petit-Fils, nous évoquions cette thèse de Mattioli, et il y a une ultime réponse aux défenseurs de cette thèse, c'est le fait que l'on change les noms des prisonniers que l'on enterre dans les prisons. Puisqu'à l'origine, vous le disiez tout à l'heure, Marchiel ou Marchioli est le nom du prisonnier que l'on a enterré et qui avait un masque de fer en 1703.
Oui, on voit très bien dans les documents de la Bastille, dans les archives de la Bastille, que les prisonniers d'État du temps du gouvernement de M. de Saint-Mars et même de son successeur, M. de Bernaville, sont enterrés sous des faux noms. Et il est tout à fait logique, évidemment, que le prisonnier dont le nom ne se dit pas, comme disait Dujinca, ait été enterré sous un faux nom. Et ce faux nom, eh bien, c'est celui de Mattioli, Marchioli. Pourquoi ? Tout simplement parce que dès 1687, au moment où commence à circuler cette gazette, nous avons une lettre qui nous montre qu'on parle beaucoup de cette affaire, même à Paris. Et l'un des correspondants de voyageurs qui était passé en Provence à cette époque-là, donc en 1687, au printemps de 1687, indique, à propos de l'arrivée mystérieuse du prisonnier qui a frappé tous les esprits, à Grasse notamment, à l'étape de Grasse, puisque à chaque étape de son voyage, le prisonnier enfermé dans une chaise à porteurs, ce qui est tout de même quelque chose d'assez étonnant. C'est pas une chaise à porteurs, c'est réservé à des individus d'origine noble, à cette époque-là en tout cas. Nous voyons le prisonnier sortir parce que il étouffe. Il a un masque d'acier sur le visage et il étouffe dans sa chaise à porteur qui est en plus calfeutrée. Ce correspondant indique que Je connais l'identité de ce personnage. C'est un personnage qui a voulu négocier avec le roi la cession de Casal. La cession de Casal, en fait, elle est intervenue un peu plus tard, après l'enlèvement de Mattioli, l'incarcération de Mattioli. Elle est arrivée en 1681. Mais, bien entendu, ce premier fiasco a été connu en France, et l'aventure de Mattioli a été plus ou moins éventé, et on savait dans certains milieux que Mattioli, en fait, était à Pignerol.
Donc on donnait, lors de la mise en bien, on donnait le nom d'un autre prisonnier.
On a donné le nom d'un autre prisonnier, c'est Monsieur de Samar, évidemment, qui a donné ce nom, pour tromper, en quelque sorte, la postérité, et pour donner le nom qui circulait déjà à cette époque. Donc il y a là une petite astuce, en quelque sorte, qu'on est bien obligé de démonter, parce que manifestement ce n'est pas le prisonnier au masque d'acier de 1687.
Donc reste Eustache d'Angers pour vous et le masque de fer. Qui est exactement ce valet?
Alors, par élimination, nous sommes bien obligés d'admettre que c'est un valet qui s'appelle Eustache d'Angers. On l'appelait autrefois Dogé, mais on voit très bien que sur la correspondance que c'est un N qu'il faut lire et non pas un U. Donc, c'est Eustache Dogé.
Fonck Brentano avait écarté la thèse de d'Angers parce qu'il considérait que c'était qu'un valet, et donc il ne voyait pas ce qu'un valet pouvait faire derrière un masque de fer.
Voilà. Mais un valet, quel valet aussi? Il est arrêté à fin juillet 1669 à Calais par le major de Dunkerque, M. de Vauroy. Il est conduit à Pignerol avec 3 soldats. Et 3 soldats, ce n'est pas beaucoup. Fouquet avait une centaine de mousquetaires pour l'escorter. Lauzun aussi. Mais les instructions sont extrêmement rigoureuses. M. de Samar est prié d'aménager un cachot isolé ayant suffisamment de portes pour qu'on ne puisse rien entendre de ce que pourrait dire ou crier le prisonnier, donc cet Eustache d'Angers. Il est, M. de Samar, obligé de lui porter une fois par jour de quoi vivre, toute la journée. Et surtout, ne jamais écouter ce que le prisonnier voudrait lui dire, le menaçant de mort, si jamais il ouvre la bouche pour parler, je cite le texte, d'autre chose que de ses nécessités. Donc, c'est un personnage qui connaît un secret, indiscutablement. C'est quelqu'un d'humble origine. On le voit par sa pension. Sa pension est d'abord 50 livres. Ensuite, elle sera portée à 165 livres par mois. Mais les pensions de Fouquet ou de Lauzun s'élèvent à 500 ou 600 livres par mois. Donc il y a une très grande différence de statut social, parce que le statut social au XVIIe siècle, c'est quelque chose de très important, et ça se retrouve même en prison, bien entendu. Un gentilhomme, quelqu'un de haute naissance, ou quelqu'un qui a été à la cour du roi, ne peut pas être traité comme un simple domestique et enfermé dans un cachot. Fouquet avait un appartement de 2 pièces, plus un petit débarras. Monsieur de Lauzun a également eu le même dispositif à l'étage du dessous. Donc ce n'était pas simplement un cachot. Alors que ce prisonnier, Eustache d'Angers, est d'abord mis dans un cachot et dans une tour, et c'est le prisonnier de la tour. Ou de la tour d'en bas, comme on disait, puisque c'est la dénomination d'une des tours du donjon de Pignerol.
Alors, allons en avant du secret. Que cachait ce personnage?
Alors, les historiens ont été très perplexes. On a essayé de trouver des explications. On l'a identifié à un certain Martin, qui était un valet d'un conspirateur, Roux de Marcilly, en 1669. Donc les choses semblent coïncider. Ce Roux de Marcilly voulait probablement organiser un soulèvement de protestants en France, peut-être même assassiner Louis XIV. Lui est enlevé, exécuté en juin 1669. Donc les dates coïncident. Et puis il y a un nommé Martin qui se trouve en Angleterre et qu'on envisage de faire venir. Malheureusement, on a découvert une pièce montrant qu'il était inscrit. Il n'est plus nécessaire de faire venir le nommé Martin, qui était le valet de Roux de Marcilly, à la suite de l'exécution de Roux. Donc, par conséquent, et on sait maintenant que Martin est resté en Angleterre. Donc, ça ne peut pas être le personnage arrêté à Calais quelques semaines plus tard.
Il y a également la thèse du bâtard de Charles II.
Alors, le bâtard de Charles II, ça, c'est une des thèses. Le bâtard de Charles II, ça ne correspond plus du point de vue chronologique, puisque il meurt en 1685 à la suite d'une révolte contre son oncle Jacques II. Et il est exécuté. Alors, bien sûr, il y a eu des légendes comme quoi il ne serait pas mort à ce moment-là et qu'on l'aurait substitué. Mais là, évidemment, les partisans de cette théorie ne parviennent pas à nous expliquer et à faire rentrer, en fait, leur candidat dans la prison, puisque nous avons cette prison, elle est déjà bien occupée par nos personnages.
Mmh. Donc, pourtant, le personnage de Charles II est une des clés de cette énigme.
Alors, c'est une hypothèse que j'ai émise qui concerne en fait Eustache d'Angers. L'homme a été arrêté à Calais donc en 1669 et à ce moment-là, dans les relations franco-anglaises, se déroulait une négociation très secrète entre d'un côté Charles II qui voulait rétablir la religion catholique, se convertir au catholicisme et rétablir le catholicisme en Angleterre, et qui dit catholicisme dit aussi à cette époque-là l'absolutisme, donc sur le modèle de Charles Ier. Et il a besoin de l'appui de la France, et en échange de cet appui et de troupes qui seraient envoyées en Angleterre pour maintenir l'ordre en cas de révolution, il propose d'aider la France contre la Hollande, contre les Provinces-Unies. Et Louis XIV gardait une dent, si je puis dire, contre les Provinces-Unies, puisque la guerre de dévolution, quelques mois auparavant, avait été stoppée à la suite d'une initiative très brutale des Provinces-Unies et de la Suède pour empêcher la poursuite des conquêtes dans les provinces de Flandre. Donc, il y a là une négociation entre Charles II, roi d'Angleterre, et sa sœur, Henriette d'Angleterre, femme de monsieur, frère du roi, donc belle-sœur de Louis XIV. Et on parle dans cette correspondance, qui est une correspondance chiffrée, d'un grand secret. Et cette correspondance s'arrête, assez curieusement, en juillet 1669. Mais on sait qu'il y a un document qui résumait toute la négociation, un document en français qui a été envoyé en Angleterre par un des négociateurs, un des coursiers qui portait les documents, que ce document a été envoyé un mois environ avant la signature par Louis XIV de la lettre de cachet concernant Eustache d'Angers. Donc il y a une assez grande coïncidence pour considérer que ce prisonnier, nous n'en avons pas de certitude absolue, était mêlé à cette affaire de négociation secrète.
Quand vous dites était mêlé, c'est qu'il a vu les documents.
Alors voilà, c'était peut-être un valet de Madame, un valet d'Henriette d'Angleterre, peut-être un valet de Louis XIV lui-même, chargé probablement de transporter ces documents et qui a dû les voir, qui a à la suite de cela, probablement ça avait commencé à parler et il a fallu donc l'interner.
Donc, en quelque sorte, il s'agissait de préserver la parole du roi à l'égard de Charles II d'Angleterre pour que l'affaire ne se sache pas.
Absolument. Absolument. Et alors, nous avons aussi un autre document, parce que nous suivons la vie de ce prisonnier Eustache d'Angers à Pignerol. Nous voyons des choses assez curieuses. Nous voyons qu'à partir de 1675, après avoir été mis dans ce cachot très isolé, où il y a plusieurs portes qui permettent donc d'éviter d'entendre ce que l'homme voudrait crier, il a été mis au service de Fouquet, donc dans l'appartement de Fouquet, parce qu'un des valets de Fouquet était mort. Et donc il y avait un autre valet, Fouquet avait besoin de deux valets qui se relayaient, il y avait donc la rivière d'un côté, et puis Eustache d'Angers de l'autre. Et on avait bien entendu pris des précautions, et Louvois lui-même avait poussé la précaution jusqu'à écrire à Fouquet, donc prisonnier lui-même, en lui disant je voudrais savoir, Sa Majesté désire savoir si le Eustache d'Angers qu'on vous a donné pour vous servir n'a pas parlé, je cite, de ce à quoi il a été employé avant que d'être à Pignerol. Et on voit dans la minute, sur la minute même de ce document, trois ou quatre mots biffés, c'est ce qu'il a vu. Donc Louvois a préféré rayer cette formule « ce qu'il a vu » qui était beaucoup trop explicite, ce qui nous renverrait évidemment à ces documents que le futur prisonnier Eustache d'Angers aurait pu voir. Mais c'est une piste. Sachant que en 1675, bien entendu, la négociation de 1661 avait perdu une partie de son importance qui permettrait de comprendre pourquoi un prisonnier qui avait une grande importance en 1669 en perd en partie en 1675.
Alors, nous savons qui est le Masque de Fer. Il s'agit d'Eustache d'Angers. Vous avez développé votre propre thèse sur ses motivations. Il y a une question que je vais vous poser et vous y répondrez après une troisième pause. C'est pourquoi, tout simplement, le roi ne s'est-il pas embêté pourquoi le roi s'est embêté avec ce prisonnier qu'il aurait pu très bien faire passer par les armes? C'est ce que je vous demanderai dans un instant. À tout de suite.
Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois l'historien Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'un livre sur Louis XIV, mais aussi d'un ouvrage réédité récemment dans la collection Tempus des éditions Perrin, Le Masque de Fer. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, nous savons qui est notre personnage, qui est ce Masque de Fer. Il s'agit d'un ancien valet qui aurait été au courant des négociations entre la France et l'Angleterre sur la conversion de l'Angleterre, la conversion de Charles II et donc la conversion de l'Angleterre. Pourquoi Louis XIV, au fond, n'a-t-il pas fait éliminer ce personnage?
Alors, contrairement à ce qu'on pense habituellement, on n'éliminait pas les individus de cette façon-là. D'abord parce que c'est un royaume chrétien et que le roi ne considérait qu'il ne pouvait pas, en tant que roi, prononcer une sentence de mort. Vous savez, deux manières de rendre la justice sous l'Ancien Régime. Il y a ce qu'on appelle la justice déléguée, qui se fait avec les conseillers au Parlement, notamment. Bien sûr, il y a une procédure qui nous paraît évidemment aujourd'hui assez arbitraire. Mais il y a une procédure criminel qui permet au conseiller du roi de prononcer une sentence de mort. En revanche, l'autre mode d'exercice de la justice, c'est ce qu'on appelle la justice retenue. C'est celle qui est retenue, conservée dans les mains du roi. Le roi est un maître de toute justice. C'est même la fonction principale au départ de la monarchie. Vous voyez l'image de Saint-Louis rendant la justice. Bien, donc, dans cette justice retenue, le roi ne peut pas prononcer une sentence de mort, sauf des cas extrêmement précis, extrêmement limites, comme bien sûr des affaires de haute politique, comme l'assassinat du duc de Guise, voire l'assassinat de Consigny, sur lequel le jeune Louis XIII a fermé les yeux, laissant le maréchal de Vitry accomplir cette basse œuvre. Donc, dans la justice retenue, le roi ne peut pas prononcer une sentence de mort. Simplement, il utilise un moyen à sa disposition, une lettre de cachet, et sans faire le moindre procès, on enferme un individu, voire le reste de ses jours. On voit exactement la même procédure pour une affaire un peu postérieure, l'affaire des poisons. dans lesquels un certain nombre d'individus, de sorciers, d'alchimistes, de prêtres dévoyés se sont mis à accuser, pendant la procédure, Madame de Montespan, donc la maîtresse du roi, la favorite, d'avoir été mêlée à ces affaires, d'avoir été mêlée à des affaires de messe noire.
Mais alors, Jean-Christian, je vous en prie.
Et simplement, il a été décidé d'arrêter la procédure de la justice déléguée, puisqu'il y avait une chambre ardente qui était chargée de juger ces individus, et qui aurait pu les condamner à mort, et qui avait déjà commencé à condamner à mort un certain nombre d'individus, comme la voisin, notamment. On a arrêté, et en vertu de la justice retenue, on a envoyé ceux qui avaient accusé Madame de Montespan, on les a envoyés dans des citadelles de province, avec des instructions extrêmement précises en disant « Vous ne devez surtout pas écouter ce que vont dire ces gens ». Donc nous nous trouvons en face d'un phénomène assez voisin.
Mais alors pourquoi, Jean-Christian Petit-Fils, pourquoi un masque de fer ? Puisque cet homme, au fond, il n'avait pas le droit de parler, il n'avait pas le droit de crier son nom. Alors pourquoi lui mettait-on aussi un masque de fer ? Car au fond, son visage n'était pas connu.
Alors, pourquoi ? Il faut remonter à 1680, au moment de la mort de Fouquet. Quelques jours avant la mort de Nicolas Fouquet, une lettre d'instruction, une lettre de Louvois donne instruction à M. de Saint-Marc, l'ordre de visiter les conduits de cheminée, les cheminées du donjon de Pignerol, parce qu'il a obtenu, Louvois, des informations particulières, comme quoi les prisonniers, d'un étage à l'autre, discuteraient. Or, des instructions extrêmement précises avaient été données pour qu'on ne puisse pas mettre en communication Lauzun, d'une part, et Eustache d'Angers, valet de Fouquet, de l'autre. On avait adouci le régime carcéral de Fouquet et de Lauzun, mais pour Eustache d'Angers, il y avait un régime un peu particulier, ce qui se comprend, bien entendu, puisque on faisait confiance à Fouquet pour garder le secret, parce que évidemment Eustache d'Angers l'avait dit à Fouquet, mais on ne voulait pas que d'Angers puisse parler avec Lauzun. Or, à la suite de cette fouille, Saint-Marc s'aperçoit qu'il y a des communications constantes et que même Lauzun montait à l'étage supérieur, s'installait dans le lit de Fouquet et que c'était des grandes discussions entre eux. Et par conséquent, qu'il a vu, ce qui était formellement interdit, il a vu Eustache d'Angers. Fouquet meurt d'apoplexie à la suite de cette découverte et les instructions concernant Eustache d'Angers sont très rigoureuses. Ces individus, les deux valets de Fouquet, la rivière, maintenant qui va partager le sort de d'Angers, la rivière et d'Angers, doivent être enfermés et on doit faire croire à tout le monde qu'ils ont été libérés. Voilà l'instruction. Et c'est la seule instruction que nous ayons. Donc, à nouveau, la chape de plomb retombe. Il y a eu un moment presque d'égarement du pouvoir. On a voulu faire confiance, un peu trop confiance aux uns et aux autres. Et puis, on s'est aperçu que quand même, il y avait des risques. La chape de plomb retombe, et c'est pourquoi M. de Saint-Marc s'en va à exil avec ses deux prisonniers, Eustache d'Angers et La Rivière. Il a simplement instruction de dire que les valets de Fouquet, ils ont disparu. Regardez, d'ailleurs, on peut même voir l'ancien appartement de Fouquet qui est vide, on y met Lauzun. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti. C'est une manière de démonétiser, en quelque sorte, les éventuels bavardages d'Eustache d'Angers. Voilà les instructions. Il y a à aucun moment une instruction n'a été donnée de cacher le visage du prisonnier. Mais évidemment, il fallait le cacher, ce visage, ne serait-ce qu'aux soldats de la compagnie franche de M. de Saint-Marc. Donc déjà, probablement, pendant le transfert de Pignerol à exil, on a dû mettre un sac ou mettre, voire un masque sur le visage du prisonnier. Et évidemment, pour le nouveau voyage qui va d'exil à Sainte-Marguerite, là c'est un voyage qui va durer plusieurs jours, eh bien il va falloir une douzaine de jours, il va falloir masquer le visage du prisonnier et l'enfermer dans cette fameuse chaise à porteurs couverte de toile cirée. Et Saint-Marc s'est vite aperçu qu'en faisant croire qu'il gardait un personnage de la plus haute importance, eh bien il se valorisait lui-même. Saint-Marc a connu une frustration de carrière, c'est justement cet exil. Après avoir perdu deux personnages importants qui le valorisaient lui-même, Fouquet et Lauzun, deux prisonniers de Marc, il se retrouve avec deux valets, deux merles, comme il dit, qui n'ont évidemment aucun, sur le plan social, aucune valeur et en tout cas ne valorisent pas le geôlier. Donc c'est à la suite de cette frustration de carrière que, étant nommé à l'île Sainte-Marguerite, il va commencer à raconter ce qu'il appelle lui-même des contes jaunes, et il va donner donc libre cours à son tempérament hâbleur, affabulateur, d'où toutes les explications que nous trouvons, enfin, d'où l'explication que nous trouvons sur les égards faits aux prisonniers masqués. En fait, tout cela provient de Monsieur de Saint-Marc. Et même la petite gazette par laquelle nous avons commencé cette émission nous montre que déjà, la rumeur venait directement de Monsieur de Saint-Marc.
Donc tout le mythe, en fait, est la conséquence de la vanité d'un homme.
Voilà, il y a eu une manipulation, une mise en scène pour frapper les imaginations et une supercherie.
Alors évidemment, la Révolution française va en faire ses choux gras. Quelques mots simplement, Jean-Christian Petit-Fils, sur le mythe. Pensez-vous qu'il a encore un bel avenir, ce mythe ?
Ah ben, on le voit au cinéma. On a déjà 22 films sur le Masque de Fer, des romans, 25 romans, des pièces de théâtre. Le romantisme s'est emparé de l'affaire. Vigny a écrit un poème. Hugo aussi. Bon, je ne parle pas d'Alexandre Dumas. Pagnol s'est emparé de l'affaire également.
Pagnol est très dur. Vous le citez à nombreuses reprises. Il est très dur avec le régime.
Oui, oui, oui. Alors, évidemment, il accuse Louis XIV d'avoir fait empoisonner tout le monde, Fouquet, et bon, tout cela pour prouver que Eustache Daugé, comme il l'appelle, puisque, en fait, c'est pas Daugé, mais il a cru lire Daugé comme ses prédécesseurs, était le frère jumeau de Louis XIV. Alors, c'est difficile, évidemment, à prouver, parce que si on le met au service de Fouquet, on n'imagine pas Louis XIV acceptant de mettre son jumeau au service de l'ennemi de l'État qui était l'ancien surintendant des finances. Alors Pagnon lui dit bon, c'était un secrétaire, il servait mais c'était pas lui qui graissait les bottes de Monsieur Fouquet.
Certains vont même jusqu'à dire que il s'agissait d'un ancêtre de Bonaparte.
Alors oui, il y a eu cette fameuse histoire où on le voit dans le mémorial de Sainte-Hélène, il est question d'un gouverneur qui s'appellerait Bompard et qui aurait eu une fille et la fille bien sûr serait tombée amoureuse du prisonnier. Ils auraient, si je puis dire, fait un enfant à travers les barreaux et cet enfant aurait été discrètement acheminé en Corse, d'où évidemment la différence de langage jouant, on l'aurait appelé Buonaparte au lieu de Bompard. Le seul point historique, c'est qu'en effet, au XVIIIe siècle, il y a eu un commandant qui s'appelait Bompard à l'île Sainte-Marguerite, mais c'était beaucoup plus tard. Et Napoléon a été au courant de cette histoire et il a dit bien finalement ça aurait pas été très 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 difficile étant donné la crédulité des gens de faire croire cette idée si j'avais voulu, dira-t-il, si j'avais voulu dans le mémorial de Sainte-Hélène, j'aurais trouvé certainement une centaine de personnes dans le Sénat pour sanctionner cette décision, probablement, dit-il, ceux-là même qui plus tard se sont empressés de me dégrader. Et sitôt l'adversité venue.
Eh bien, nous allons nous quitter, Jean-Christian Petit-Fils, sur ce mythe. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Le Masque de Fer, réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Je dis également à nos auditeurs que vous êtes intervenu à l'Académie des sciences morales et politiques sur Louis XIV, une communication qui est disponible sur le site asmp.fr. Je vous remercie, Jean-Christian Petit-Fils, et à bientôt.